Chapitre 20. Au moment où il arriva chez son frère, Sébastien et Clara allaient se mettre à table et la bonne du gargotier d'en bas était en train de sortir leur dîner de son panier. Deux potages, deux portions, une salade. « Tu vas dîner avec nous, » dit Sébastien, qui était toujours heureux de voir son frère. Ce fut alors que se montra avec tous ses avantages le système de tenue de maison adopté par Clara. La venue d'un troisième convive dans un petit ménage, au moment même de servir à dîner, eût été une cause de trouble et d'embarras. Clara n'eut qu'un mot à dire, et 5 minutes après, arrivait un nouveau potage, une nouvelle portion de gigot aux haricots rouges et une nouvelle salade. Point de domestique curieux et indiscret non plus, qui empêchasse de causer librement. Dès le potage, Frédéric put annoncer la grande nouvelle. Le marquis d'Arlanzon voulait épouser Geneviève. « Qu'est-ce qu'elle a donc, cette gamine ?» demanda Clara, qui enviait tout. La fortune, le rang, la beauté, l'esprit, la tendresse, la toilette, le succès, même le scandale. La jeunesse. La belle affaire. Qu'est-ce qui n'a pas eu la jeunesse? Elle n'a pas eu, elle l'a, et c'est quelque chose pour le marquis qui ne l'a plus, cette jeunesse. Enfin, interrompit Sébastien, il veut l'épouser. C'est votre impression? Demanda Clara d'un ton ironique. C'est mieux que mon impression. J'ai été obligée de le prier de ne pas adresser sa demande à notre père. Et c'est là-dessus que je viens vous consulter sur les moyens à employer pour amener notre père à donner son consentement. Et il exposa ses craintes. Que fallait-il faire? Comment agir? Tant que le papa beau-père comptera sur l'héritage de la tante de corde, dit Clara, il ne donnera pas son consentement. Ce qu'il faut donc, c'est lui enlever cette espérance, et je ne vois pour cela qu'un moyen. Lequel? C'est que j'aille voir mademoiselle depuis Laurence et que je réussisse à m'établir auprès d'elle pour un certain temps. Quand je reviendrai, je dirai en confidence au beau-père qu'elle m'a prise en grande amitié et qu'elle me fait sa légataire universelle. Non, pas de ça, s'écria Frédéric. Parce que... D'abord, parce que vous ne réussirez pas à vous établir auprès de mademoiselle depuis Laurence. Vous croyez ça? Pas le même genre. Oh, mais pas du tout. Je ne doute pas de vos talents, mais je doute de la crédulité de ma tante, qui est une femme intelligente et n'est pas dupe des comédies qu'on joue auprès d'elle. Demandez à Sébastien si nous avons jamais rien obtenu par la rouerie. Par la tendresse, par la simplicité, la franchise, tout ce qu'on veut. Par le détour et l'adresse, rien. Vous ne réussiriez donc pas. Mais dussiez-vous réussir, que je ne vous laisserai pas vous établir à corde et faire tranquillement vos affaires, « attendu que je n'ai pas envie que vous me chipiez ma part d'héritage. »« Mon cher !»« Nous causons carte sur table, n'est-ce pas ? Il a été un temps où j'étais bien avec ma tante et où Sébastien était mal avec elle. Il en a été un autre où c'était Sébastien qui était bien avec elle tandis qu'elle était mal avec moi. Cela n'avait pas d'importance. Si j'avais été légataire universel, j'aurais fait la part de mon frère. Si Sébastien avait hérité, il m'aurait fait la mienne. » Cela était convenu et juré. Eh bien alors, que craignez-vous? La situation n'est plus la même. Alors, Sébastien n'était pas marié. C'est-à-dire que j'empêcherai Sébastien de tenir sa parole? Je ne dis pas ça, mais néanmoins, je n'admets pas que vous alliez à corde. Il est inutile de discuter là-dessus, dit Sébastien, qui passait son temps à empêcher son frère et sa femme de se prendre aux cheveux. Il n'est pas question que Clara aille à corde. Mais enfin, sans qu'elle aille s'établir chez ma tante, son moyen a du bon. Comment cela? Il n'est pas nécessaire que le testament qui déshérite notre père soit vrai. Qu'on lui fasse croire qu'il est déshérité par un prétendu testament, cela suffit, et il me semble que cela n'est pas impossible. J'avais pensé aussi à me faire écrire de corde une lettre dans laquelle on me dirait que notre tante allait complètement bien et que sa santé était tout à fait raffermie. Car si on peut lui faire admettre l'idée que d'ici à 3 ans la tante ne mourra pas, il n'aura plus de raison pour s'opposer au mariage de la petite sœur avec le marquis. Qu'en dites-vous? C'était à Clara que cette interrogation s'adressait. Elle ne répondit pas. Cela vous déplaît? Demanda Frédéric. Cela ne me plaît ni ne me déplaît, cela ne me regarde pas. Je vous ai indiqué tout à l'heure un moyen que je crois sûr, vous n'en voulez pas. Arrangez-vous comme vous voudrez. Lancez-vous dans la chimère comme à votre ordinaire. Combinez des effets de théâtre ou de roman, c'est votre affaire. Pour moi, il n'y a de certain que le réel et ce qu'on fait soi-même. C'était cela précisément que je voulais. Vous avez peur de moi ?
Très peur.
N'en parlons plus. Et, au fait, on n'en parla plus, au moins tant qu'on fut à table. Mais quand Frédéric se leva pour se retirer, Sébastien le suivit et, dans la rue, l'entretien reprit où il avait été interrompu. Ils étaient trop étroitement unis, et par l'habitude, et par la fraternité, et par la communauté d'intérêt, pour qu'une affaire de femme les fâchât. De même que leur père avait accord de le clerc de notaire Cédoux, chargé de le tenir au courant de tout ce qui se passait chez Mademoiselle de Puylaurens, ils avaient aussi un agent qui leur rendait le même service. C'était un ancien camarade de Frédéric au séminaire d'Albi, nommé Mirandol, qui, n'ayant aucune vocation pour la prêtrise, avait épousé la fille d'un des plus riches tanneurs de cordes et avait continué le commerce de son beau-père. Par amitié pour Frédéric, qui était resté un modèle pour lui, il s'était fait son correspondant et, tous les mois, il lui envoyait un bulletin de la santé de Mademoiselle de Puylaurens, ou tout au moins, il lui répétait les bruits qui couraient la ville, n'étant point un personnage à avoir des relations avec l'héritière du ministre de Raymond VII. Le plan que Frédéric avait ruminé en mangeant silencieusement après sa prise de bec avec sa belle-sœur était de demander à Mirandol de lui écrire que Mademoiselle de Puylaurens venait de faire un testament qui déshéritait sa famille et que sa santé était maintenant en si bon état qu'on lui donnait plus de 10 ans à vivre. Ce fut ce plan qu'il expliqua à son frère. « Et Cédoux, dit celui-ci, il n'écrira pas dans le même sens que Mirandol. » Cédoux peut ne pas connaître le testament dont Mirandol aura appris l'existence d'une façon certaine. Je veux bien admettre cela pour le testament, mais pour la santé... Si Cédoux dit que la tante est malade et si Mirandol dit qu'elle est bien portante, lequel des deux notre père croira-t-il? Ni l'un ni l'autre, il y aura doute et ce doute profitera à notre combinaison. Frédéric ne comptait pas donner à son correspondant les raisons vraies qui lui faisaient demander cette lettre. Mirandol était un garçon tout franc qui n'aurait pas compris la force de ses raisons et le mieux était de lui en donner qui fussent appropriées à son caractère et à sa nature. « Vous savez, mon cher ami, quel mal nous a fait la tante de l'héritage de ma tante de Puylaurens. Ça a été la perte de mon père, la perte de sa fortune, de sa position, de sa santé. » Que ne serait-il pas aujourd'hui s'il ne s'était pas toujours dit « À quoi bon, j'aurai demain la fortune de Mademoiselle de Puylaurens ?» Ce qu'il s'est dit pendant si longtemps, il se le dit toujours, les déceptions ne lui ayant rien appris. En ce moment, une occasion splendide se présente pour lui et il la balance, il la refuse presque en se répétant encore « À quoi bon, j'aurai demain une partie du revenu de la fortune de Mademoiselle de Puylaurens ?» Vous sentez, n'est-ce pas, vous si actif, si pratique, combien cela est terrible pour nous? C'est dans ces conditions que je viens vous demander un service que vous ne me refuserez pas, j'en suis certain. Voici ce dont il s'agit. Et il lui avait expliqué ce qu'il voulait. Une lettre lui apprenant que Mademoiselle de Puylaurens venait de faire son testament en faveur des sœurs de Saint-Joseph d'Albi. C'était un des témoins de ce testament qui le lui avait dit, et, en plus, une série de renseignements prouvant que la santé de Mademoiselle de Puylaurens s'était si bien raffermie que cela devait être une consolation pour lui à la perte de cet héritage qui, maintenant, se ferait peut-être attendre 10 ans, 15 ans. L'ancien camarade du séminaire d'Albi n'avait pas refusé cette lettre à son ami. Mais dans la famille de Mirandol, ça avait été un sujet d'ébahissement et de stupéfaction quand on avait appris que les Mussidans en étaient arrivés à considérer l'héritage de Mademoiselle de Puylaurens comme une calamité.